Bien, alors pour continuer, je vous propose de lire deux versets dans Ésaïe, Ésaïe 55, 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit plus? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon et vous vous délecterez d'aliments savoureux. On arrive dans la période de Noël, nous sommes dans l'Avent, avec A-N-E-T et E-N-E-T, avant Noël. Et puis, je suis en train d'essayer d'écrire un petit message sur un papier qu'on laisserait aux gens quand on rencontre dans la rue pour communiquer ce qu'est Noël. Alors, j'ai essayé de faire une liste d'un côté des images positives que Noël nous évoque et puis des autres moins intéressantes, on va dire, ou moins positives, moins conformes à la vérité. Et c'est vrai que Noël, bon, ben, y a des belles choses, même dans les traditions, la lumière, le sapin, le ci, le ça. On essaie de penser aux autres. Puis il y a le côté consommation, grosse bouffe, faire des courses, bousculer dans les magasins, trouver des cadeaux, tout ce stress qui va avec cette consommation qui s'est emparée de cet événement. Et puis, c'est toujours surprenant de penser qu'on va fêter la venue de quelqu'un qui est venu sur Terre de façon très très humble, très presque à la limite misérable, hein, dans des conditions de pauvreté assez avancées, et on fait ça dans l'opulence, en tout cas chez nous, quoi, dans la débauche de moyens pour qu'il y ait plus, qu'il y ait encore plus. Et ça me faisait réfléchir aussi à ma vie, à la différence justement entre ce qui rassasie et ce qui rassasie pas. Et je m'apercevais que quand il y a des choses qui vont mal dans ma vie, et puis qu'après ça va mieux, ça crée un soulagement. Ah. Mais ce soulagement, même si on l'apprécie, c'est bien, il nourrit pas, il rassasie pas. On se sent soulagé, mais très rapidement, on s'aperçoit que c'est pas une nourriture qui a de la consistance pour nos âmes. On aimerait rester sûr. Hein. C'est un petit peu comme quand il se passe quelque chose de difficile dans nos vies. Tout d'un coup, ça nous fait remettre certaines priorités en place. Hein. Je me rappelle, on en parlait avec Luigi il y a un an, quand tout d'un coup son fils part à l'hôpital avec une embolie, quelque chose dans le cerveau, puis on ne sait pas s'il va vivre ou pas. Quoi. Puis là, pendant quelques semaines, on ne connaît pas les résultats et il me disait toutes mes priorités sont différentes. Quoi. Ce qui était un problème pour moi avant, c'est une bêtise, ça n'a plus de sens. C'est, hein. Mais ces choses-là ne nous changent pas en même temps. Ça nous fait réaliser un moment, dès que la situation change, que ce soit parce que ça se termine mal ou bien, mais qu'elle s'arrête en tout cas, il y a un soulagement. Mais ce soulagement-là n'est pas une nourriture. On a besoin d'autre chose pour remplir nos âmes. Et je pensais à ce passage d'Ésaïe. Hein. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Alors bien sûr, en tant qu'être humain, on doit faire fonctionner la mécanique, on doit vivre, et pour ça on a besoin de manger, de dormir, de faire de l'exercice, de prendre soin de notre corps, d'avoir une certaine hygiène. Mais pourquoi nous dépensons toute l'énergie de nos vies pour des choses qui ne nourrissent pas, qui ne rassasient pas, hein? C'est un peu comme, je ne sais pas si ça existe de la nourriture comme ça, mais où on pourrait manger, 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 mais on a toujours faim. Mais là, c'est ce qui se passe. À McDo, tu dis? Ah bon. Ok. Je mettais ça en parallèle avec l'enseignement de Jésus, et pour ça, j'aimerais vous lire un autre passage, qui est un petit peu long, mais en même temps, c'est bien parce que quand on a là, j'avais pas fait exprès, mais ça va avec. On va prendre le repas du Seigneur après. Ça nous amène aussi dans ces choses-là. Dans Jean 6, verset 47, on va lire jusqu'au verset 58. Vraiment, je vous l'assure, c'est Jésus qui parle, celui qui croit à la vie éternelle. Car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. » Je l'ai déjà dit, mais on n'arrive pas, on ne peut pas mesurer à quel point ce texte était une provocation violente au moment où il a été dit, dans la culture où il a été dit. Pensez que ces gens-là ne mangeaient même pas le sang d'une poule ou d'un mouton. Il fallait l'égorger, que le sang coule ailleurs, il y avait un rituel, etc. Alors, c'était aussi un peuple qui vivait avec toujours ce qui est pur, ce qui n'est pas pur. Et puis, il y avait une liste de ce qu'on pouvait manger. On ne pouvait pas manger de cochon, on ne pouvait pas manger de chameau, on ne pouvait pas manger de ci, de ça. Et là, Jésus leur dit, mangez mon corps, mangez, buvez mon sang. Non seulement le sang, mais en plus la chair et le sang d'un être humain. Alors même si c'était une image, c'était d'une violence inouïe pour eux. Et pourquoi Jésus fait cela ? On sait que Jésus ne s'amuse pas, il ne provoque pas pour le plaisir de provoquer. Ce n'est pas un adolescent en rébellion qui se dit « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour embêter le reste du monde ?» Il y a une raison aussi pour laquelle il a été aussi violent avec les gens à qui il parlait à ce moment-là. Parce qu'il fallait qu'il essaie de les secouer, de leur faire comprendre qu'il y avait autre chose que ce qu'ils pensaient avoir. Quelqu'un qui n'est pas croyant, il n'est pas croyant, il vient à la foi, il découvre Christ, j'allais dire c'est presque simple. Ce qui était compliqué dans cette histoire-là, c'est que ces gens-là, c'était le peuple de Dieu, et effectivement, c'était le peuple de Dieu. Ils avaient reçu des prophéties, ils avaient reçu les prophètes, l'Ancien Testament, ils avaient vu des miracles, la mer Rouge qui s'est ouverte, David, etc., etc. Ils attendaient le Messie qui viendrait les délivrer. Ils connaissaient Dieu, ils avaient le temple avait été construit selon les indications de Dieu, ils avaient tout ce qu'il fallait, sauf qu'ils étaient complètement à côté. Complètement à côté. Et Jésus vient et par plusieurs moyens, il y avait d'autres choses, il a prêché en parabole, il a utilisé plein d'autres choses, il a fait des miracles. Mais dans ce discours-là, il vient les bousculer dans quelque chose qui est tellement inacceptable humainement pour eux, pour les amener à réfléchir. Et en même temps, Jésus fait ça et il fait aussi pour ses disciples qui sont là avec lui, pour les enseigner. Et je crois pour nous, même si nous ne sommes pas dans la même situation culturelle, et puis on est habitué à ces textes, alors ils ne touchent pas de la même façon, mais on doit comprendre aussi que Dieu veut bouleverser notre façon naturelle de voir la vie chrétienne. Il veut nous débarrasser de tout ce qui est le vernis chrétien, j'appellerais, la peinture chrétienne sur nos vies. C'est-à-dire, je suis un être humain, je vis comme tout le monde, et puis j'ai rajouté par-dessus une couche de peinture chrétienne. Ça se traduit par, je vais au culte le dimanche de temps en temps, j'ai un calendrier avec des versets, j'en lis un le matin, je prie avant de manger. Et puis après, j'ai une certaine morale, une certaine éthique. Je vole pas, je triche pas, je mens pas, je respecte l'heure. Je suis poli, etc. Toutes ces choses-là, quoi. Et ces choses-là sont des choses qui sont bonnes. C'est bien d'être poli, d'être honnête, d'être gentil, d'avoir un calendrier avec des versets, d'aller au culte le dimanche matin. Mais Dieu veut nous amener plus loin. Parce que pourquoi nos vies spirituelles sont compliquées? Parce que nous passons une bonne partie de nos vies à lutter contre le péché, contre ce qu'il ne faudrait pas faire, pas penser, pas dire, etc. Et nous luttons contre ces choses-là parce qu'elles trouvent de la place en nous, parce que nous avons faim. Nous avons faim d'être remplis, nous avons faim d'être satisfaits. Et nous pensons que ben, le mode de vie qui nous est proposé peut le satisfaire, hein. Mes études, ma réussite professionnelle, mon mariage, ma maison, ma voiture, ma position sociale, ma montre, mon succès dans tel domaine, dans la musique, dans le sport, ces choses-là devraient me satisfaire. Et toutes ces choses-là rentrent dans la catégorie de, c'est pas des choses mauvaises, hein, mais de la nourriture qui ne nourrit pas, qui ne rassasie pas. Je le fais. Alors tant que je l'ai pas, il y a quand même quelque chose. Hein, c'est pour ça que c'est toujours meilleur avant, quoi. Hein, juste avant d'avoir, juste avant de l'obtenir. Quand on est encore dans, ah, comment on pourrait faire pour l'avoir? Ah, je vais bientôt l'avoir. Mais toutes ces choses-là, quand on les a et qu'on les a consommées, encore une fois, pas forcément le fait qu'elles soient mauvaises, elles nous laissent avec la faim au ventre. Je suis pas satisfait. Donc j'ai besoin d'autre chose. Et c'est ce qui m'amène dans la convoitise dans beaucoup de difficultés. Jésus nous dit, il y a une autre nourriture. Il y a un pain qui rassasie. Il y a une eau qui désaltère. J'ai pas lu tous les passages, hein. Et il veut nous sortir de ce cercle vicieux où je suis tellement occupé, comme on l'a vu ce matin, à essayer de me satisfaire que j'ai plus le temps pour ceux qui pourraient me satisfaire. Quand je parle satisfaire, c'est intérieurement, hein. Ne pas être avec cette je suis pas satisfait mais je sais pas pourquoi. J'ai envie de quelque chose mais je sais pas quoi. Alors où je fais brûler ma carte de crédit ou je me jette sur quelque chose où je vais appeler des gens et puis on a tous certaines choses qui nous font oublier ce sentiment que je suis pas satisfait, hein. Pour certains, c'est de parler mal des autres. C'est très efficace. Pendant un moment, on pense plus. Hein. On appelle les gens et on critique les autres. Ça fait du bien pendant un moment. Hein. Pour d'autres, c'est une activité qui va les mettre en valeur. Et puis là, on m'apprécie. Alors, pendant ce moment-là, je ressens plus cette faim-là. Et puis, c'est illimité les possibilités. Il y a un verset dans l'Ancien Testament que je trouve intéressant. Enfin, ça parle de la soif plutôt que la faim, mais c'est le même principe. Ça s'applique au peuple d'Israël, mais c'est pour nous aussi. Jérémie 2,13 dit ceci. C'est Dieu qui parle. Mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. Ça décrit bien nos vies. On a abandonné la source d'eau vive, ou on a abandonné la nourriture qui rassasie, pour se creuser des citernes. Mais en plus, ces citernes, elles sont percées. Ça retient pas. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, alors que Dieu veut que nous avancions dans des cercles vertueux. C'est pas Pascal, hein, j'ai retenu. Cercle vicieux qui est, pour être heureux, il faut que ma citerne soit pleine. Ma citerne est percée. Donc il faut que je travaille à réparer ma citerne, mais ma citerne, elle sera toujours percée. Donc je travaille à la réparer, mais elle est toujours percée. Et pendant ce temps, Dieu dit, mais qu'est-ce que vous êtes stupide? On a parlé de la stupidité ce matin. Je suis la source de vie. Je suis le pain de vie. Et vous dites, oui, mais Seigneur, quand j'aurai réparé ma citerne, j'aurai du temps pour toi. Dieu dit, non, mais tu n'auras jamais réparé ta citerne. Quand tu seras mort, on va la jeter, c'est sûr, mais jusque-là, elle sera jamais réparée, hein. Et on le sait tous, je pense, si on a pris un peu d'âge, on a au moins perdu cette illusion que, hein, ouais, quand je serai marié, quand les enfants seront grands, quand si, quand je serai à la retraite, non, on n'aura jamais plus de temps qu'aujourd'hui. Ça sera jamais plus favorable qu'aujourd'hui. Ça sera jamais plus facile qu'aujourd'hui. Parce qu'on est des êtres humains, on est sur Terre, on est tous dans la même condition, peu importe où on vit, qui on est, ce qu'on fait. Notre problème, il est simple, mais en même temps, il est tellement compliqué. On ne veut pas la seule nourriture qui pourrait nous satisfaire, et on dépense nos vies pour la chercher ailleurs. Dans l'évangile de Jean, on voit Jésus se trouve dans une situation, il voyageait à pied, c'est des êtres humains, hein, il marchait, il faisait chaud, et donc arrivé un moment, Ils sont fatigués, ils ont faim et ils ont soif, tout à fait naturellement. Les disciples partent au village chercher à manger, et vous connaissez l'histoire, c'est là où Jésus rencontre cette femme qui vient d'une ville de Samarie et qui vient puiser de l'eau, et puis il lui demande à boire, et puis par ça, il lui parle. Et il lui communique un message d'espérance. Cette femme est bouleversée, elle va témoigner à son village. Le village vient rencontrer Jésus, c'est un petit réveil dans cette ville-là, spirituelle. Après ce moment-là, Jésus, qui était en même temps un être humain, ses disciples qui sont revenus, qui n'ont pas tout compris ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il parle avec cette femme, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, Seigneur, mange! Puis il leur dit, j'ai plus faim. Quelqu'un t'a donné à manger? Hein? Non. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et je vous lis le passage pour pas le déformer. Jean 4, 31. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, Maître, mange donc. Mais il leur dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandèrent donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? C'était comme nous, ils comprenaient tout. Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Et bien sûr, quelque temps après ça, Jésus a mangé du pain et du poisson et de la viande, et je ne sais pas ce qu'il avait à manger. C'est pas, l'idée n'est pas ici qu'il ne faut pas se nourrir. Hein. Mais d'avoir accompli dans ce moment présent la volonté de son Père, c'était tellement une source de plénitude, de satisfaction, pas dans le sens égoïste, hein, que même la faim naturelle a été coupée pendant un moment. Peut-être intéressant à étudier comme régime. Hein. Mais il était tellement rempli par cette chose-là qu'il n'y avait plus de place pour se nourrir pendant un moment. Hein, parce qu'en tant qu'être humain, ben après ça revient. Hein. Et je me disais, est-ce que ma vie chrétienne ressemble à ça? Ben, pas souvent. De temps en temps, un petit peu, mais hein, pas souvent. Et en même temps, je suis tellement en train de chercher ce qui pourrait faire que. Et Dieu me dit, mais c'est là devant toi. Alors bien sûr, pour accomplir la volonté du Père, ben, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut l'écouter. Il faut passer du temps. Il faut prendre les choses par le point de départ. Hein. Si je prends jamais le temps pour lire ma Bible, comment je peux connaître la pensée de Dieu? Si je prends jamais de temps pour méditer, comment je peux l'entendre? Si je prends jamais de temps pour prier, comment je peux reconnaître sa voix? Si je vois jamais mes frères et sœurs, comment je vais être encouragé, édifié, soutenu? Ces choses-là, c'est notre hygiène de vie chrétienne. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est pas que Dieu soit content parce qu'on a sacrifié notre dimanche matin au lieu de dormir ou d'aller promener, on est venu au culte. C'est que ces choses-là aiguisent notre oreille, développent notre être spirituel pour qu'on puisse discerner, entendre, comprendre la volonté de Dieu et qu'ensuite on choisisse d'y marcher dedans par sa force, par sa grâce. On n'en est pas capable. Hein. Mais au moins de le savoir et de lui demander, oui, moi je peux pas, mais si c'est ce que tu veux, avec toi je veux bien faire le premier pas et puis on verra pour le deuxième après. Et puis Dieu va être fidèle et on va s'apercevoir quand on prend ce chemin-là que hein, j'ai plus faim et je parle pas matériellement maintenant. J'ai plus cette envie de quelque chose, mais je sais pas quoi en moi qui fait que je suis jamais content, jamais satisfait. Ma vie a été remplie par ça. Mais, parce qu'on est humain, de la même façon que ce que j'ai mangé hier ou avant-hier, ben, voilà, il faut que je remange aujourd'hui. Hein. Et dans notre vie avec Dieu, c'est pareil. On a besoin de revenir encore et encore. Et si je continue le passage dans Jean 4, lorsque Jésus dit ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Et puis, il continue. Et il dit, vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà, les épis sont blancs et prêts à être moissonnés. Ça, c'est un encouragement pour nous pour cette période de l'Avent, parce que on regarde et puis on nous dit, dans une région comme la nôtre, parler de l'Évangile, un peu moins de Noël, tout le monde connaît le message de Noël, tout le monde sait le petit Jésus dans la crèche. Donc ça, c'est la vision naturelle. Et Jésus nous dit, non, non, si vous mangez la nourriture que je vous propose, vos yeux aussi vont être différents. Et vous allez voir derrière toute cette façade les besoins des gens, la soif qu'ils ont. Hein. Et puis il dit, Celui qui fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Celui qui fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Je trouvais ça intéressant, je ne m'étais jamais arrêté sur ce verset-là. Il y a les deux aspects. Lorsque je fais la volonté de Dieu, effectivement, il y a quelque chose qui s'engrange pour l'éternité. Mais le moissonneur reçoit son salaire maintenant. C'est-à-dire que lorsque je marche dans la volonté de Dieu sur terre aujourd'hui, la volonté de Dieu s'accomplit, il y a quelque chose d'éternel qui se passe, hein, mais moi, sur le moment présent, je reçois un salaire. Qu'est-ce que c'est ce salaire ? C'est pas des sous, c'est pas un badge avec un diplôme, une barrette accrochée sur mon uniforme de chrétien, non. C'est que je suis nourri pendant un moment par ce que j'ai fait. Pas parce que j'ai fait, mais parce que j'ai vécu dans la volonté de Dieu. Peu importe ce que c'est, hein, que la volonté de Dieu pour vous, ça a été de prendre du temps pour prier, ou au contraire de donner votre temps pour aider quelqu'un, ou j'en sais rien, je ne peux pas le savoir pour vous. Mais lorsque je fais cela, je moissonne quelque chose d'éternel, et en même temps, je reçois une nourriture pour maintenant. Il me remplit. Hein. Et c'est pour ça que quand on est dans ce cercle vicieux de « il faut que je répare ma citerne, quand ma citerne sera pleine, j'aurai du temps pour Dieu », là on est mal parti. On doit abandonner la citerne, mais ça veut dire ne plus s'appuyer sur nos provisions naturelles et dire à Dieu « j'accepte de dépendre de toi et je vais d'abord prendre du temps avec toi, mettre les bonnes priorités dans ma vie et puis ça va me nourrir ». Et là, après, c'est un cercle vertueux parce que plus je passe de temps avec Dieu, plus je connais sa volonté, plus j'entends bien sa voix, plus ça me nourrit, plus j'ai de la force pour l'écouter. Et je pars dans la bonne direction. Et puis si je chute, ben, je me relève, je confesse mon péché, je repars. Mais Dieu veut ça pour nous. Alors moi, je prie pour cette période de l'Avent qui va arriver, dans laquelle on va entrer. Je sais que j'ai toujours, chaque année, je me dis, cette année, je ne me ferai pas avoir. Chaque année, je me fais avoir. Alors, je ne dis même pas cette année, je ne me ferai pas avoir. Mais je demande à Dieu la grâce de vivre jour après jour, moment après moment, en pensant à ça et en mettant la priorité sur la bonne nourriture. Mangez mon corps, buvez mon sang. Parce que la vie éternelle, celle qui satisfait, celle qui remplit, se trouve à l'intérieur. Alors, Seigneur, nous te remercions pour ce que tu es venu accomplir sur terre, mais aussi pour ce que tu nous donnes maintenant. C'est vrai que c'est possible à cause de ta mort et de ta résurrection, à cause de ta victoire sur le péché. Mais nous voulons entrer dans ta moisson, nous voulons nous aussi nous nourrir de la volonté du Père, en l'accomplissant par ta force et par ta grâce. Afin que nos vies soient satisfaites par toi et que nous n'ayons pas à courir à droite et à gauche pour les remplir, Seigneur. Aide-nous à vivre dans cette dépendance de ta volonté. Aide-nous à t'entendre. Donne-nous la force de te chercher, de consentir à ta voix, à ta présence, afin que nos vies soient transformées et que ça puisse aussi toucher ce qui nous entoure, Seigneur. Amen.